Europe 1, 13h15, 14h. On de la raconte.
C'est une histoire qui sent le tabac froid des estaminets, le sang séché des abattoirs et la sueur de l'ouvrier dans le quartier des Halles à Paris en 1910, à l'heure où le travailleur sort du turbin. Dans ces années-là, dans ce quartier-là, on travaillait 7 jours sur 7 et le samedi soir, on allait boire la paye de la semaine. On s'envoyait tout le labeur dans le gosier. Le samedi 9 janvier 1910, rue Beaubourg, voilà 4 clients qui, à la nuit tombante, franchissent la porte du troquet La Mère Navarre. Il y a là un apprenti cordonnier de 23 ans, Jean Liabeuf, que l'on surnomme le Biouf, et avec lui, la grande Marcelle, une prostituée de la rue Saint-Merry, 23 ans elle aussi, ainsi que deux acolytes. Patronne ! Trois blancs ! Et un blanc case pour mademoiselle ! Jean Liabeuf, le cordonnier, porte une cape noire en gros drap. Et à peine installé, de là-dessous, il sort un sac de toile. Et du sac, il tire des sortes de brassards de cuir, tout hérissés de clous. Il y en a 4. 2 pour se mettre aux avant-bras, des poignets jusqu'aux coudes, et 2 autres pour se mettre autour des biceps. C'est la grande Marcelle qui les lui installe. « Ben gigote donc pas comme ça, va. Tu vas nous écorcher tous les deux. » Et voilà le cordonnier, harnaché comme un gladiateur, qui remet sa cape, si bien qu'on ne voit rien. C'est que l'Olibrius a un plan, un sacré plan même, qu'il va mettre à exécution dans les minutes qui viennent. Un plan qu'il mûrit depuis l'année dernière. Il veut tuer du flic, il veut dégommer des cognes.
« Allez, patronne, à la revoyure !»
Ils sortent tous les quatre, remonte la rue Saint-Martin et pousse la porte des caves modernes. Pour picoler encore, se donner du courage. Et cette fois, c'est du brutal. De l'absinthe avec de la crème de prune, spécialité de la maison. Et l'absinthe, c'est bien connu, ça fait chauffer le cerveau. Et d'ailleurs, le cordonnier Liabeuf parle de plus en plus fort.
Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qui viennent me chercher, les mouchards ? Les poulets ? Je me charge de les buter, moi. Je leur ferai leur sœur.
Et ça ne rate pas. Quelques minutes plus tard, voilà les poulets qui rappliquent. On les annonce au coin de la rue.
Je savais bien qu'ils ne rateraient pas l'occasion. Je les avais prévenus quand ils m'ont ramassé. Je leur avais dit, vous m'avez fait. Je suis innocent. Mais quand je sortirai, je vous réglerai votre compte.
Et là-dessus, Liabeuf se lève et sort. Et sans se presser, il s'éloigne du troquet. Il a très bien vu les deux flics en planque sous un porche. Il passe sans les regarder. Quand soudain, les deux agents se jettent sur lui. Ils le saisissent au bras et forcément, il se transperce les mains sur ses brassières cloutées. C'est alors que Liabeuf se retourne et que de sa ceinture, il tire un grand couteau bien effilé, une lame de cordonnier qu'on appelle un tranché. Et avec, il lacère le torse de l'un des policiers et transperce la gorge de l'autre, en pleine rue. La brigade du 4e arrondissement, qui se trouvait pas loin, se met alors à le poursuivre. Quand à un moment donné, Liabeuf sort un revolver de son froc et il tire 2 coups et il blesse 2 policiers au ventre, puis un 3e. Jusqu'à ce que finalement un brigadier le transperce de son sabre. Liabeuf lâche son revolver, il s'écroule à genoux, la lame lui a transpercé le poumon. Il est emmené dans un fourgon à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu. Le lendemain, à l'hôpital, Liabeuf est interrogé par le commissaire Picot. Il est touché au poumon et à moitié inconscient, mais il trouve encore l'énergie de vociférer.
Bande de vaches, hein ! Assassin ! Assassin !
Et puis, à bout de force, il tombe dans les pommes. Le lendemain, il est transféré à l'infirmerie de la prison de Fresnes, où il reçoit la visite du juge d'instruction Drapier. C'est lui qui lui apprend que l'un des policiers qu'il a dérouillé l'avant-veille est mort. L'agent Célestin de Ré, que tout le monde dans le quartier surnommait Bulldog à cause de sa carrure, il est mort. Il a tué un flic.
Tant mieux. Je regrette bien qu'il n'y en ait qu'un qui est crevé, toi.
Mais vous avez tué un agent qui ne vous avait absolument rien fait.
Vous croyez ça, vous? Qu'ils m'ont rien fait. Ils m'ont fait coffrer pour rien. Voilà ce qu'ils m'ont fait. L'année dernière, ils méritaient que ça.
Liabeuf avait donc un compte à régler avec la police. Mais pas avec ce policier-là, celui qui l'a tué, avec d'autres. Et tant pis s'il n'a pas tué le bon. Il dit qu'il a une bonne raison de détester les flics. Et ça, il veut bien l'expliquer au juge. C'est sa raison. Il croit que c'est une bonne raison. Ça remonte à l'année dernière, en 1909, quand il s'est retrouvé accusé et condamné pour proxénétisme. Tout ça parce qu'il était à la colle avec une prostituée.
Moi, à Macro, à Juno, et puis quoi encore?
S'il a tué un flic aujourd'hui, c'est parce qu'il a la rage contre les flics depuis cette affaire, depuis qu'on l'a accusé d'être un macro. C'est sa bonne raison.
Europe 1, Ondelat raconte.
En janvier 1910, dans le quartier des Halles à Paris, un cordonnier de 23 ans du nom de Jean Liabeuf tue un policier. Maîtrisé, il est incarcéré à Fresnes et prétend avoir réglé un compte avec la police. Une affaire qui remonte à l'année d'avant. Cette affaire, celle qui a déclenché sa colère, elle remonte au printemps 1909. Liabeuf, à l'époque, habite un hôtel pouilleux au 132 rue Saint-Martin. Il est cordonnier aux Halles. Et sa copine, la grande Marcel, un jour, lui présente une brunette, une tapineuse, comme elle, Alexandrine, que tout le monde appelle Didine. Et Liabeuf, ben c'est un cœur d'artichaut. Il s'amourache de Didine. Sauf que Didine, elle n'est pas complètement libre. Elle a un julot qui s'appelle Gaston. Et Gaston, voir sa Didine, qui est une bonne gagneuse, s'amouracher d'un cordonnier, ça lui plaît pas trop. Et un jour, il le dit à Liabeuf, et Liabeuf lui répond « Viens, on va régler ça entre hommes. » Et les voilà comme deux coqs de basse-cour qui vont se battre à coups de couteau derrière l'église Saint-Merry. Pour Didine, pour les beaux yeux de Didine. Et les flics, forcément, débarquent. Une nuée de flics qui leur tombe dessus comme la vérole sur le bas clergé. C'est à partir de ce moment-là que les flics de la brigade mondaine commencent à soupçonner Liabeuf d'être un julot casse-croûte, un type qui fait turbiner sa gonzesse. Et notamment deux flics, en civil, en bourgeois, comme on disait à l'époque, qui se mettent à le surveiller de près. Un certain Maugra, que tout le monde appelle Bogos, et un certain Vorse, qui a pour surnom la flûte. Leur truc à eux, c'est de pincer les gars qui mettent les filles sur le trottoir. Et le 30 juillet 1909, ces deux-là prétendent avoir vu Didine lui donner de l'argent. C'est comme ça que tout a commencé. Ils l'ont vu lui donner de l'oseille, donc c'est un macro. Et Didine a beau protester, dire que son julot, c'est Gaston, les deux autres n'ont rien voulu entendre. Ils ont donc envoyé Didine à la prison Saint-Lazare et inculpé Liabeuf pour vagabondage spécial, ce qui revient à le qualifier de proxénète. Lui, un honnête apprenti cordonnier. Jean Liabeuf est jugé dans la foulée, devant le tribunal correctionnel de la Seine, sur l'île de la Cité. Et il se retrouve bien seul devant le juge. On n'a même pas fait venir Didine pour témoigner. Et l'avocat qu'il s'est choisi n'était pas libre ce jour-là. Au cours de ce procès, il y a bien quelques témoins qui viennent parler en sa faveur. Son logeur. Ah ben c'était un client parfait. Sobre, rangé. Son patron. C'est un ouvrier sérieux et bon garçon. Et son labeur constant ne lui laisse guère le loisir d'être souteneur. Mais ça ne pèse pas lourd face aux deux policiers de la mondaine. Elle lui a donné plusieurs fois des gains de sa journée. Elle lui offre des cigarettes et des verres de vin dans le quartier des Halles. Ça n'est pas le procès du siècle. Mais à la fin, Jean Liabeuf est condamné à 3 mois de prison ferme, 5 ans d'interdiction de séjour à Paris et 100 francs d'amende. Quand il sort de Fresnes, 3 mois plus tard, Liabeuf, malgré l'interdiction, revient à Paris. Dans le quartier des Halles, bien sûr, pour chercher du travail. Et la police le repère et le renvoie pour 1 mois de plus à Fresnes. Il en ressort en novembre 1909, la rage au ventre, humilié, en colère. Et il écrit à un copain de régiment, Charles. « J'ai juré de me venger, je me vengerai, je suis tout ce qu'on voudra, excepté un souteneur. Je les ai prévenus, ils ont agi avec moi comme des lâches, dans l'unique but de m'empêcher d'être à Paris, et ça, je ne l'accepte pas. » Et maintenant, puisqu'il est interdit d'être à Paris, il s'est installé aux portes de la capitale. Le jour, il vend des cartes postales sur le faubourg du Temple. La nuit, il dort à la Belle Étoile. Et la nuit et le jour, il cultive patiemment sa rancœur. Il fomente sa vengeance. L'idée des brassards cloutés, elle lui est venue en lisant un feuilleton policier dans le magazine Je sais tout. Une bande d'étrangleurs qui sévissait la nuit sur les docks de Londres et pour se protéger, les jeunes bourgeois avaient pris l'habitude de se mettre autour du cou un collier de cuir garni de pointes. Les fabriquer, ça n'a pas été compliqué. Il sait travailler le cuir. C'est son métier. Ensuite, il a aiguisé son tranché et acheté un revolver en acier trempé avec 5 balles blindées de 8 mm. Toutes ses économies y sont passées. Il rôde toute une semaine dans le quartier des Halles avec son revolver, son couteau, ses brassards, bien cachés sous sa cape. Il cherche ses 2 ennemis, les policiers Maugras et Vors, Bogos et La Flûte, ceux qui l'ont coffré, ceux qui l'ont humilié. Il va les tuer tous les deux. Entre-temps, il a retrouvé Didine, bien sûr, mais à l'hôpital, salement amoché par son julot de Gaston. Et voilà, ça c'était le 7 janvier. Le 9, il tombe sur 2 policiers qui ne sont pas les bons, mais tant pis. Et ça se finit dans un bain de sang.
Europe 1, on de la traconte.
Au printemps 1909, Jean Liabeuf, un cordonnier du quartier des Halles à Paris, a été condamné pour proxénétisme. 2 policiers de la brigade mondaine prétendent qu'il faisait travailler une prostituée nommée Alexandrine. Ce que lui a nié jusqu'à sa condamnation. À sa sortie de prison, il n'a qu'une idée, se venger. Au cours d'une soirée alcoolisée, il tue un policier et se retrouve à nouveau en prison. Le 11 janvier 1910 ont lieu les obsèques de l'agent de police Célestin Deré, Bulldog. Le cortège part de la caserne de l'île de la Cité et il y a du beau linge. Le chef du gouvernement en personne, figurez-vous. Aristide Briand et avec lui une bonne partie de son gouvernement et des généraux et le préfet et aussi et surtout des centaines de policiers en tenue. Le cortège traverse la moitié de Paris pour rejoindre le cimetière de Montparnasse. Depuis deux jours, l'histoire fait la une des journaux. Pour la plupart des journaux, Liabeuf est un salopard, c'est un malfrat sanguinaire. Et son harnachement, évidemment, les bracelets de cuir et les clous, a frappé les esprits. Le journal parle d'un apache au brassard de fer. Les apaches, c'est comme ça qu'à l'époque, on appelle les marlots. Le matin titre, la vengeance de l'apache. Et l'éclair réclame une sanction exemplaire. L'apache est roi, qu'on le détrône. Mais il y a quelques journaux, socialistes et anarchistes, qui voient dans Liabeuf le symbole d'un prolétariat opprimé et poussé à bout. Elle vous embouche en coin, celle-là, hein ? Le symbole du prolétariat opprimé. Un journaliste notamment enfourche ce cheval. Gustave Hervé, le patron du journal La Guerre Sociale. C'est un socialiste révolutionnaire et laissez-moi vous lire un peu de sa prose. Je trouve que dans notre siècle d'Avelie et d'Avachi, Liabeuf a donné une bonne leçon d'énergie, de persévérance et de courage à la foule des honnêtes gens. À nous-mêmes, révolutionnaires, il a donné un bel exemple. Tous les jours, il y a d'honnêtes ouvriers qui sont victimes de brutalité policière, d'erreurs judiciaires grossières. Entendez-vous dire que l'un d'eux soit vengé ? Donc c'est au choix. Liabeuf, héros de la cause prolétarienne, ou Liabeuf, horrible tueur de flics. En attendant, figurez-vous qu'il y a des rassemblements sur les lieux du crime. Des révolutionnaires de tout poil qui viennent défendre Liabeuf. Faudrait que tous les mecs d'ici soient comme Liabeuf. Le coin serait vite nettoyé de tous ces flics qui veulent nous la faire à l'influence. J'étais là quand il a tiré. À ce moment-là, j'aurais bien donné tout mon sang pour lui. Je vous rassure, l'illuminé qui vient de proférer ses propos est interpellé et inculpé pour apologie d'un meurtre. Mais il y en a d'autres. Celui-là qui vocifère ne doit pas avoir plus de 16 ans. Encore un flic de crevette, hein ? C'est pas mal, on en descendra bien d'autres. Lui aussi, fini au poste. Et c'est pas tout, le 17 janvier, l'agent Février qui a blessé Liabeuf est pris dans une embuscade rue Quincampoix. Il en réchappe de peu, ses agresseurs ont crié « Vengeance pour Liabeuf !» Trois jours plus tard, les agents Bogos et La Flûte réussissent à coincer la grande Marcelle, rue Beaubourg, au prétexte qu'elle a aidé Liabeuf à enfiler ses brassards. Mais personne, vous entendez, personne n'accepte de témoigner contre elle. Les policiers sont obligés de la relâcher. Après quoi d'ailleurs elle disparaît. Elle ne répondra pas à la convocation du juge. Elle ne témoignera pas au procès. On dit qu'elle a quitté le trottoir et qu'elle est devenue couturière à Belleville. Et finalement, Liabeuf est renvoyé seul devant la cour d'assises de la Seine pour violence, tentative d'homicide et homicide volontaire. Et toujours aussi provoque, il répond « Je veux bien monter à l'échafaud, moi, à condition que la justice reconnaisse qu'elle s'est trompée en me condamnant pour vagabondage spécial. » Mais avant de le juger lui, on va juger son principal soutien, le premier des Liabouvistes. C'est le nom qu'on donne désormais au soutien de Liabeuf. Gustave Hervé, le patron de l'hebdomadaire La Guerre Sociale, il est jugé pour provocation au meurtre et apologie d'un crime. Son avocat, Maître Bonzon, a fait citer 70 témoins pour dénoncer les brutalités policières et les magouilles de la brigade mondaine. Le président s'adresse à Gustave Hervé. Selon vous, en somme, c'est la police et non l'accusé Gustave Hervé qui comparaît aujourd'hui en cour d'assises. Effectivement. On est deux inculpés. Il y a moi, il y a la police. Un leader de la CGT vient à la barre. Je veux parler ici des ignobles individus qui peuplent la flicaille. Retirez ce que vous avez dit. Pas du tout. Vous m'avez fait jurer de dire toute la vérité, ben je l'ai dit. Témoin, retirez-vous. Non. Et il s'accroche à la barre, jusqu'à ce que deux gendarmes le décrochent et l'emportent sous les cris ulcérés des militants. À la fin, le jury déclare Gustave Hervé coupable sans circonstances atténuantes. Il est condamné à 4 ans de prison ferme et à 1000 francs d'amende. C'est la plus lourde condamnation à l'égard de la presse sous la Troisième République. Vous savez ce que fait Gustave Hervé le lendemain ? Il publie dans son journal le nom et les adresses des 12 jurés qui l'ont fait condamner. Et maintenant, on va juger Liabeuf, dont les révolutionnaires se sont emparés, mais qui, lui, n'a jamais exprimé une opinion politique. Jamais. Il s'en fiche de tout ça. Lui, il s'est juste vengé. Et en attendant son procès, il dessine des fleurs sauvages dans sa cellule et il lit des récits d'aventure.
Europe 1, Ondelat raconte.
En 1910, un cordonnier de 24 ans, Jean Liabeuf, est jugé par la cour d'assises de Paris pour l'assassinat d'un agent de police. Il est défendu par les socialistes révolutionnaires qui en font un symbole de leur lutte. Liabeuf, lui, dit qu'il voulait simplement se venger d'une injuste condamnation pour proxénétisme. Le procès de Jean Liabeuf s'ouvre le 4 mai 1910 au palais de justice de Paris. Et Liabeuf y apparaît tout pâle, tout tassé. L'homme au brassard de fer a perdu de sa superbe. Il a mis un costume bien coupé, avec un col rigide bien blanc, une cravate bien noire. Il a l'air d'un commis notaire. Et dès qu'on l'interroge, il en revient à son idée fixe. « Non, je suis pas un souteneur. En me condamnant, on a commis une erreur judiciaire. J'ai été interdit de séjour pour ça. Eh bien, je préfère la guillotine. » Si cette condamnation était injuste, pourquoi n'avez-vous pas fait appel ? Bonne question. Qui le laisse quoi ? Se rappelle-t-il seulement qu'il n'avait pas d'avocat lors de son premier procès ? Ce que tout le monde attend, bien sûr, c'est le témoignage des policiers. Ceux qui l'ont fait condamner pour maquereautage. L'agent Maugra, le fameux beau gosse, entre tout de suite dans le vif du sujet. Nous avons acquis la conviction que c'était un souteneur avéré. Cet homme ment ! Je peux même vous préciser qu'Alexandrine Pigeon vous donnait chaque jour 5 francs. On ne fait venir ni Gaston, ni Alexandrine. De toute façon, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est le meurtre du policier. Il n'y en a pas d'autre. Et le verdict ne fait aucun doute depuis le début. Et même Liabeuf est sans illusion. Il est bien sûr condamné à mort. Et vous savez ce qu'il dit ? Si vous m'avez condamné, c'est comme assassin et non comme souteneur. Devant la guillotine et jusqu'à la dernière goutte de mon sang, je protesterai. Je suis innocent. Je ne suis pas un souteneur. Gustave Hervé, évidemment, commente dans son journal. Je demande à tous les hommes et toutes les femmes de cœur qui ont suivi cette angoissante affaire de venir crier leur indignation autour de l'échafaud. Et ce qui va se passer après est assez incroyable. Disons que c'est un morceau de l'histoire de la gauche française, à ne pas juger, évidemment, avec les lunettes d'aujourd'hui. Figurez-vous que petit à petit, Gustave Hervé parvient à rallier pas seulement les révolutionnaires, pas seulement les socialistes, mais aussi les radicaux du gouvernement. Jean Jaurès prend la parole le 16 juin au cours d'un meeting à Paris.
Je demande solennellement au président de la République de bien vouloir user de son droit de grâce. Et toute la presse embraye, et ça pétitionne, et ça manifeste, et la cause de Liabeuf rallie d'anciens Dreyfusards de renom, des académiciens, des scientifiques, du beau monde, à Paris comme en province. Le président de la République, Armand Falière, est un abolitionniste. Logiquement, il doit donc gracier Liabeuf. Mais le préfet de police vient le voir. Monsieur le Président, si vous le graciez, que les choses soient bien claires, je vous remets ma démission. Prenez conscience que j'ai toute la police avec moi. Il a tué un policier. Ne l'oubliez jamais. Le 30 juin 1910, le président Armand Falière rejette le recours en grâce de Jean Liabeuf. Le journal La Guerre sociale titre à sa une « Liabeuf va être exécuté, tous devant la guillotine ». Le lendemain, à 2h du matin, on installe l'échafaud sous les remparts de la prison de la Santé. 800 policiers forment un cordon de sécurité. Il y a des gendarmes à cheval et la garde républicaine et l'armée qui se tient en réserve. Et les pompiers aussi. Le préfet Lépine a juste oublié un détail. Il y a des travaux au boulevard Saint-Jacques et des centaines de pavés bien taillés à portée de main. La foule place d'Enfer Rochereau est de plus en plus nombreuse. Des ouvriers, des syndicalistes, des anarchistes, des socialistes et aussi des apaches. Tous les apaches de Paris sont là, surtout ceux des Halles et du Marais. Et ceux qui viennent de derrière les fortifications, les relégués, les plus amers. Il y a aussi Jean Jaurès, Pablo Picasso, Blaise Cendrars, Jean Vigo encore enfant, et même Lénine, en exil à Paris. Les habits sont noirs, les drapeaux sont rouges. À 3h du matin, le procureur de la République vient chercher Liabeuf dans sa cellule. Il demande une plume et une feuille. « Pauvre maman, ma dernière heure étant arrivée, je te laisse cette mèche de cheveux et je te demande encore pardon. » Dehors, la foule gronde. Et soudain, deux coups de feu. Un inspecteur de la sûreté s'écroule, mort. Et la foule applaudit. « Bravo ! Bravo !» Le préfet Lépine ordonne la dispersion. Il fait charger sabre au clair, avec autorisation de tirer à balles réelles si besoin. En face, on se met à lancer des pavés. Par miracle, il n'y aura pas d'autres morts. Parce que pendant ce temps, le bourreau d'Hébler pousse Liabeuf vers la guillotine. Ses derniers mots sont incroyables. « Ça n'est pas mon exécution qui fera de moi un souteneur. Non, je ne suis pas un souteneur !» Il meurt dans un dernier cri et c'est fini. Sur europe1.fr les références des livres et documents que nous avons utilisés pour écrire cette histoire. Replay et podcast à volonté. Vos commentaires sur Twitter @ondelatraconte. Et si vous voulez aller voir les bracelets hérissés de clous de Liabeuf, ils sont au musée de la préfecture de police de Paris.
Ondelatraconte sur europe1.